the city of Whitesville.
Whitesville. Il n'y a plus grand-chose ici. La plupart des bâtiments sont barricadés. Mais il y a 50 ans, on comptait 15 bars d'un bout à l'autre de la ville. Des cinémas, toutes sortes de choses. J'ai vu des photos sur lesquelles on pouvait voir à quoi ça ressemblait le samedi soir. On pouvait à peine passer en voiture. Il y avait des gens d'un mur à l'autre, les rues étaient pleines à craquer. Maintenant, c'est une ville fantôme. La plupart des bâtiments sont vides. Les mines à ciel ouvert emploient tellement moins de monde que les mines de fond. Il y a 50 ans, il y avait 150 000 mineurs de charbon en Virginie-Occidentale. Aujourd'hui, ils sont entre 12 et 15 000 et ils produisent exactement la même quantité de charbon qu'à l'époque. Il y a tellement de villes qui n'existent plus. Il n'y a plus rien là-bas. Autrefois, il leur fallait beaucoup d'hommes pour très peu de terre. Aujourd'hui, il leur faut toujours plus de terre pour toujours moins d'hommes.
Whitesville, Virginie-Occidentale, début août 2009. J'accompagne Mark, l'un des animateurs de la campagne contre les Mountain Top Removal, les décapitations de montagnes, ici, dans les Appalaches. Dans cette région minière, on extrait le charbon depuis le début du 19e siècle. Aux mines souterraines et leurs armées de travailleurs ont succédé les mines de surface et leurs machines gigantesques. Autrefois, les montagnes étaient grignotées de l'intérieur. Aujourd'hui, on les décapite, Mark via Rock Creek, avec d'autres militants. De là-bas, ils organisent une résistance qui a débuté il y a plus de 40 ans, quand au nom d'une demande croissante d'énergie, a été décidé le sacrifice, non plus seulement des hommes, mais du territoire lui-même. Nous échangeons notre voiture pour un pick-up, afin de nous diriger vers le site d'extraction situé à quelques kilomètres de Whitesville. Il y avait autrefois une route ici. C'est désormais un chemin défoncé, jonché d'ordures à certains endroits. Presque plus personne ne l'utilise, seuls Larry et sa famille vivent encore là-haut.
Nous sommes sur ce qui est désormais le point le plus haut de Cayford Mountain. Avant qu'ils commencent à décapiter la montagne, ici, on se trouvait à mi-chemin du sommet. Je ne sais pas si vous pouvez l'imaginer en regardant autour de vous, mais dites-vous que la vue que vous voyez n'existait pas, qu'il y avait des flancs de montagne partout autour. La route sur laquelle nous sommes montait jusqu'au sommet. Le terrain de 22 hectares où nous nous trouvons appartient à la famille de Larry Gibson. Il refuse de vendre et a transformé le statut de son terrain afin qu'il soit protégé légalement. Voilà pourquoi c'est le seul endroit qui reste intact sur Cayford Mountain. Il y avait des gens partout autour d'ici. Tout un village à l'autre bout de la route qui s'appelait Cayford. Ce village n'existe plus. C'est plus qu'un bois. Larry a grandi là-bas. Un jour, je conduisais à ses côtés et pointait différents endroits dans les bois. C'est là où j'ai grandi, c'est là où se trouvait le club. Il n'y a plus rien là-bas. Ce que nous allons voir, c'est le plus grand site de décapitation de montagne de Virginie-Occidentale, Cayford Mountain. On peut aller jusqu'au bord du site. Larry appelle cet endroit les portes de l'enfer, parce que tu poses ton regard ici, c'est beau, c'est le paradis. Si tu regardes là-bas, ce que tu vois, c'est l'enfer. Tout ici appartient à la famille de Larry. La grande majorité nous soutient, mais certaines ne nous soutiennent pas du tout. La famille de Larry est une famille de mineurs. Les plus âgés ne sont pas partis. Leur retraite est payée par les compagnies minières et ils ont des enfants qui travaillent encore dans les mines. Caught up in the stuff. The companies still got kin that works in the mines. La position de Larry est radicale. Le charbon tue. Il faut totalement arrêter de l'utiliser le plus vite possible. C'est une position difficile, spécialement par ici. On nous expulserait de la ville si on disait qu'il faudrait aussi abandonner les mines de fond.
Underground mining as well, but you know. That's why Larry's been shot at.
Mais c'est la raison pour laquelle on lui a tiré dessus. que l'un de ses chiens a été descendu, qu'on a essayé de le faire sortir de la route.
Tried to run him off the road.
Il ne va nulle part sans son pistolet chargé.
Never goes anywhere without his loaded pistol.
Le chemin s'arrête, la pente tombe à pic. Il y a encore quelques années, il était possible de gravir à pied plusieurs centaines de mètres et de monter plus haut sur la montagne. Aujourd'hui, ce que l'on peut voir est difficile à décrire. Des pentes artificielles caillouteuses recouvertes d'herbes grisonnantes surplombent une vaste fosse de gravats d'une cinquantaine d'hectares. À l'horizon, on devine d'autres sites d'extraction accessibles par une route qui longe ce qui reste des sommets. 10 km de dévastation. Ça et là, on peut observer des bois de feuillus, encore intacts, ou des flancs de montagne dont les arbres viennent d'être coupés. En bordure du site, une foreuse de trous de dynamitage. C'est elle qui entre en jeu une fois le terrain dégagé. Une pelleteuse titanesque, dont le corps mesure près de 15 mètres de haut et le bras plus de 30 mètres, capable de soulever plus de 100 mètres cubes de terre, est à l'arrêt, au loin en bas. Cet engin, la plus grosse machine mobile au monde, va pelleter le mort-terrain, terme utilisé par l'industrie houillère, puis charger des camions qui transporteront la matière extraite vers une usine de préparation. La vue nous laisse sans voix. Du fond de la vallée, on ne peut imaginer que quelques centaines de mètres plus haut, les arbres et la végétation extraordinaire que l'on trouve en Virginie occidentale et la montagne elle-même sont systématiquement détruits.
Ça, ce sont des hydro seeds. C'est ce qu'ils plantent quand ils réhabilitent un site. Une herbe japonaise envahissante qu'aucun animal ne mange et qui, généralement, ne survit que quelques années. Des insectes et les serpents, c'est tout ce qui vit sur les sites réhabilités. Ça fait des années que ça a été réhabilité. Vous pouvez voir à quel point l'herbe a survécu. Regardez un peu partout ces touffes grises-là. Tout est déjà en train de mourir. Ça s'étend sur des kilomètres. Là-bas. Il y a aussi d'autres sites de l'autre côté de la route. L'autre moitié de la montagne a aussi été détruite à l'explosif. Tous les endroits où vous ne voyez pas d'arbres, ce sont des sites réhabilités, car il n'y a pas un centimètre d'herbe naturelle dans cet écosystème.
Sur le chemin qui nous ramène vers la propriété de Larry, Mark nous demande de faire attention. Des trous, des fissures se sont formées sur la montagne.
Le fait que la montagne ait été largement minée de l'intérieur, combiné avec les explosions, fait que celle-ci craque de toutes parts. Cette pente-là est littéralement en train de tomber. Ces failles font parfois 100 mètres de profondeur.
Depuis les années 70, les compagnies houillères se doivent de réhabiliter les sites, bâtir à la pelleteuse de nouvelles pentes en suivant, entre guillemets, le contour original approximatif, planter de l'herbe, des arbres. Mais même après des dizaines d'années, la différence reste flagrante. La montagne est amputée à jamais. Autre jour, autre site. Je suis avec Spaz, un jeune documentariste, au bord d'une route, en bas d'une montagne éventrée. Une pelleteuse est à l'œuvre déblayant la montagne. Des camions, chargés de charbon, des ouvriers travaillant dans les mines passent et nous regardent avec suspicion. Nous sommes dans le Mingo County, à 1h30 de route de Rock Creek. Ici, 30% de la population survit sous le seuil de pauvreté, et l'industrie minière, qui n'offre plus que quelques emplois, a ravagé le territoire. De l'eau. De l'eau s'échappe de la montagne. Une eau jaunâtre, marronasse. Spaz s'est déjà fait contrôler, arrêté plusieurs fois à proximité des mines. Nous remontons dans la voiture et descendons en aval du site.
And here we are
Et nous voilà un peu plus bas, sur la route 65. Je suis venu ici il y a 4 mois suite à une inondation pour aider les sinistrés. Ce vallon a été très durement touché, les maisons ont été recouvertes de pierres, il y a eu des glissements de terrain. Ici, le pont qui menait à cette maison a été emporté et la voiture du propriétaire s'est retrouvée dans la rivière. Quand tu vis en bas des sites, le vent te renvoie les poussières toxiques issues des explosions. Des poussières qui, au final, se retrouvent dans le ruisseau. Ils sont censés faire des bassins pour retenir ces particules, afin qu'il n'y ait que de l'eau qui s'en échappe, mais à cet endroit, ils n'en ont pas fait. Et là, tu vois les conséquences. Les rives du ruisseau bordent presque le mobile home de cet homme. C'est juste un business dégueulasse.
Un village détruit. 4 mois qu'inondation a eu lieu et chacun s'affaire encore à réparer les baraques pauvres qui occupent les rives du ruisseau. Les Valley Fields, ces vallées surplombées par des mines à ciel ouvert, sont des lieux où les habitants apprennent à vivre avec une terreur, celle d'être inondés.
On raconte même que, lors de fortes précipitations, ceux qui habitent en aval des sites vont se coucher tout habillés, chaussures aux pieds, afin de pouvoir fuir leur maison au milieu de la nuit en cas d'inondation.
Plus loin, sur le chemin qui nous ramène vers Rock Creek, nous passons avec Spaz à côté d'une série de mobilhomes tout neufs. Au fond de la vallée, nous roulons parallèlement à la King Coal Highway, l'autoroute du charbon roi, construite par les compagnies minières sur les sommets en attendant que soient autorisées les extractions.
Ils construisent cette route, une route qui ne va nulle part, surplombant toutes ces communautés, une route qui leur permet d'avoir accès à toute une série de sommets riches en charbon. C'est ici, dans les vallées environnantes, qu'ont eu lieu les pires inondations. Nous venons de dépasser un parking parsemé de mobile homes blancs alignés sur des graviers avec juste assez d'espace entre eux pour se garer. C'est ce que la FEMA, l'agence fédérale en charge des situations d'urgence, a offert aux sinistrés du Mingo County. Leurs maisons n'avaient jamais été inondées jusque-là, donc ils n'étaient pas assurés. Ils doivent nettoyer leur propre maison sans aucun soutien privé et avec une aide minimale de l'État. Bien plus d'une centaine de maisons ont été soit détruites, soit si endommagées lors de l'inondation que leurs habitants ont dû déménager pour un temps. De nombreuses rivières dans de nombreux comtés ont été touchées. En gros, voilà ce qui se passe quand on retire toute la végétation et qu'on étend les zones où la montagne n'est plus que gravats. Même après réhabilitation, l'eau ne peut s'infiltrer car le sol est compacté. Si on retire la végétation, il n'y a plus rien pour absorber l'eau. Donc l'eau ruisselle et s'écoule à grande vitesse, causant des crues subites.
Après son extraction, le charbon est transporté pour être lavé dans des usines de préparation, se trouvant la plupart du temps à proximité des sites. Les déchets toxiques, métaux lourds et autres joyeusetés recueillies se retrouvent sous la forme d'une boue, appelée slurry, et sont soit injectés dans des anciennes mines souterraines, soit rejetés dans des bassins de rétention. En 1972, le barrage qui retient l'un de ces bassins s'effondre, et les 500 millions de litres de slurry se déversent dans la vallée de Buffalo Creek, en Virginie-Occidentale, faisant 125 morts et plus de 1000 blessés. C'est l'œuvre de Dieu, clame le patron de la compagnie houillère. En octobre 2000, dans le Martin County, toujours en Virginie-Occidentale, le fond d'un bassin, géré par Massey Energy, s'effondre dans la mine sur laquelle il repose, et c'est 1 milliard de litres de slurry, soit 30 fois plus que le tanker Exxon Valdez qui se déverse dans la vallée. 500 km de cours d'eau sont pollués, 27 000 personnes voient leur eau contaminée. Il y a plus de 110 bassins comme cela en Virginie-Occidentale. Nous passons à côté du plus important d'entre eux, avec Mark.
En haut de ce vallon se trouve le bassin de rétention de Brushy Fork. C'est le plus grand bassin de boue toxique au monde que je connaisse. Il peut contenir jusqu'à 34 milliards de litres et en contient actuellement 26 milliards. S'il s'effondrait, l'endroit où nous nous trouvons serait recouvert par 25 mètres de boue. La coulée balayerait tout dans la vallée sur 50 kilomètres. Selon le scénario le plus optimiste de Massey Energy, cela causerait la mort de 1000 personnes, et c'est définitivement une estimation basse.
1,000 people would die, and that's definitely a low estimate.
Voici le village de Dorothy. En 2001, le bassin en haut de Kayford Mountain a rompu lors d'un violent orage et a inondé toutes les maisons. Les gens cherchaient à s'échapper en se déplaçant accrochés aux clôtures pour sortir de l'eau. C'était terrible. Tous ceux qui vivent ici à Dorothy ont été inondés. Ils ont poursuivi la compagnie minière et gagné. Mais le juge du Raleigh County, chargé de l'affaire, a cassé le jugement et aucune des victimes n'a reçu d'argent. Le juge Hutchinson, un vrai salaud.
Judge Hutchinson, he's a motherfucker.
S'organiser pour se défendre, une idée simple. Et pourtant, ici, le charbon est roi, les mineurs tout-puissants et les compagnies minières semblent intouchables.
La plupart des gens touchés récemment par les inondations travaillent pour les entreprises qui les ont causées. Ils vivent ici, ils travaillent ici. S'ils voulaient essayer de poursuivre l'une de ces entreprises afin d'avoir de l'aide pour réparer leur maison et retrouver une vie normale, ils risqueraient de perdre leur boulot, et si ce n'est pas eux, ce serait leur fils, leur fille ou leur neveu. Et même si beaucoup d'entre eux réalisent que l'unique employeur est aussi celui qui leur nuit, c'est la seule paie qu'ils aient et ils en ont besoin pour nourrir leurs enfants. Ils ne feront rien pour compromettre cette source de revenus, même si cela signifie ne pas élever la voix sur un tel sujet. Comme le dit Julia Barnes, l'une des militantes de la région, il n'y a pas de boulot sur une planète morte.
Oh, say, did you see him? It was early this morning. He passed by your houses on his way to the coal. He was tall, he was slender, and his dark eyes so tender. His occupation was mining. West Virginia is home. It was just before noon. I was feeding the children when Mosley came running to bring us the news. Number 8 was all flooded. Many men were in danger, and we don't know their number, but we fear they're all doomed.
Les 550 plaignants habitent à Roll, Lake Creek, Merrimack et Sprigg, en dessous et au-dessus d'un site d'injection de boue toxique, en l'occurrence une ancienne mine garantie imperméable. Ils étaient 700 il y a encore 2 ans, mais la filiale de Mass Energy, Roll Station Processing, a acheté le silence de 150 d'entre eux. 7 ans que la procédure a commencé et qu'un petit cabinet d'avocats, venu de la Nouvelle-Orléans, s'acharne à combattre ce géant minier qu'est Mass Energy. 4e compagnie ouvrière des États-Unis, des mines en Virginie-Occidentale, au Kentucky et en Virginie. Son président, Don Blankenship, a touché 7,2 millions de dollars l'année dernière. C'est lui le véritable maître des Appalaches. Sa villa domine Williamson, cœur du bassin minier qui valait 1 milliard, le fameux Billion Dollar Coalfield. Centre urbain florissant jusqu'aux années 70 et ville fantomatique aujourd'hui. C'est là que nous nous rendons à Expaz. Ce matin-là, les avocats y ont plaidé afin que le juge se dessaisisse de l'affaire. On écoute l'un de ses avocats, Kevin Thompson.
Roll Sales and Processing, c'est une filiale de Massey Energy. De 1978 jusqu'à au moins 1987, nous ne savons pas quand ça s'est arrêté et personne ne peut nous le dire. Cette filiale a injecté plus de 4 milliards de litres de boue, les déchets issus de l'usine de lavage du charbon de Sprouse Creek, dans une mine souterraine abandonnée. Le slurry, évidemment, n'est pas resté cantonné dans ces mines. Le sol sur lequel elle repose est fracturé. Les mines souterraines ne sont pas des cuves parfaitement scellées où l'on peut emmagasiner des déchets toxiques. Tout autour d'ici, les galeries souterraines des mines sont pleines de slurry, ou l'étaient à un moment avant de se mettre à fuir. Tout au long de cette rivière, les puits des habitants ont été empoisonnés. Cette eau contient du plomb, de l'arsenic, de la manganèse, de l'aluminium. Dans la littérature médicale, le plomb, l'aluminium, la manganèse et des taux toxiques de fer sont connus pour être à l'origine de troubles de l'apprentissage et de déficience mentale. Chez ceux qui ont vécu toute leur vie dans la région et qui depuis leur plus jeune âge y ont été exposés, nous avons observé un taux très élevé et une forte prévalence de troubles de l'attention, de l'apprentissage, de nombreux cas d'hyperactivité et de déficience mentale. Nous avons plus de 100 000 pages de dossiers médicaux. Nous avons des professeurs de l'Université de Virginie-Occidentale qui ont lié les cancers du cerveau, les cancers de la peau à des endroits non exposés au soleil, les maladies du foie, précisément avec les produits chimiques injectés dans ces mines. Le propre expert médical de Massey a noté qu'après avoir été relié au système de distribution d'eau de la ville, les cas de diarrhée et de rougeur qui jusque-là touchaient toute la population de Rawl, Lick Creek, Merrimack et Sprigg avaient disparu. Même leur propre docteur a dû admettre que l'eau était bien polluée par les boues toxiques.
Les preuves sont là. Et pourtant, il est loin d'être sûr que justice soit faite. Le juge Dansbury refuse de se dessaisir, alors même qu'il était avocat de Massey en 1985 et avait plaidé en faveur de dynamitages à proximité de l'endroit même où vivent les plaignants. Des dynamitages qui ont accéléré à coup sûr le processus de perméabilisation du site. De plus, il ne fait aucun doute que le juge connaisse Blankenship, avec lequel il a été vu en train de déjeuner par un témoin. Un tout petit monde. Les avocats ont demandé et obtenu que leurs clients passent des tests afin de détecter les cancers. Mais le juge a désigné pour conduire cette enquête l'un des médecins régulièrement embauchés par Massey Energy, un médecin qui a soutenu le juge lors de la campagne pour son élection et est engagé avec lui dans une opération immobilière. Ils ont emprunté ensemble plus $1,5 million.
Tout ce que nous avons nous démontre une chose, que depuis les années 70, on a laissé délibérément l'eau être empoisonnée. Massey avait le choix. Nous avons trouvé dans les documents internes de l'entreprise un plan réalisé par un ingénieur daté de 1982 décrivant un processus de traitement à sec du charbon. Ils auraient d'abord retiré les impuretés avant de les mettre dans des gâteaux de filtration pouvant être ensuite enterrés et causer bien moins de dommages à l'environnement. Ils auraient pu protéger les gens qui vivent près des mines pour $1 la tonne.
$1 la tonne. Dans les comtés du sud-ouest de la Virginie-Occidentale, là où se trouve le plus grand nombre de mines à ciel ouvert et le plus grand nombre de sites de stockage du slurry, l'espérance de vie a baissé de 2 à 4 ans entre 1999 et 2006. Dans le comté de Boone, où se trouvent les plaignants, elle est même passée de 74 ans en 1994 à 68 ans aujourd'hui. De leur côté, les avocats de Massey font tout pour ralentir la justice, en enchaînant les appels, en cherchant des vices de procédure ou en tentant de déplacer l'affaire. Le toxicologue de Massey plaide contre toute logique que l'eau potable n'a pu être polluée, et que, si elle l'a été, l'entreprise qui l'a rétribuée l'année dernière à hauteur $1 million ne peut être considérée comme responsable. Peut-être, espèrent-ils tous, que les plaignants se lasseront, accepteront les dédommagements à l'amiable que l'entreprise leur propose. Peut-être, espèrent-ils, que la mort et le désespoir tranquillement feront leur affaire. À quelques kilomètres de Rock Creek, les activistes de Coal River Mountain Watch ont lancé un programme visant à livrer des citernes d'eau aux habitants de Prenter, dont l'eau est empoisonnée par les boues toxiques. Mark l'évoque alors que nous quittons Kiefer Mountain.
Les gens me demandent, pourquoi prends-tu tous ces risques? J'ai envie de les amener ici, de leur faire voir cet endroit. Comment pourrais-je ne pas le faire? C'est tellement inacceptable. On a commencé le projet Baril pour livrer de l'eau propre aux gens de Prenter. Et en 4 mois, 4 personnes auxquelles nous livrions de l'eau sont mortes.
Starting water deliveries, 4 of the people that were getting water died. The people here put up with their entire
Les gens ici ont vu leur lieu de vie détruit, empoisonné, dévasté. Ils sont terrorisés. Le plus incroyable des écosystèmes de toute l'Amérique du Nord est en train d'être éradiqué pour une énergie qui tue la planète.
For a fuel that's killing the planet.
Je pense que c'est le moins que je puisse faire.
I think it's kind of the least I can do.
Je veux pas me retrouver en prison pour, je sais pas moi, 3 mois. Mais ça me fout les boules de voir la moitié d'une famille crever du cancer.
3 février 2009, 5 militants s'enchaînent à une pelleteuse et à un bulldozer sur la Coal River Mountain, la seule montagne restée intacte dans la Coal River Valley, où une demande de permis pour une mine de plus de 2000 hectares est en cours. Pendant ce temps-là, 8 personnes passent les barrières de sécurité de l'entrée de la mine. 16 février, 2 militants accompagnés d'un journaliste déploient une banderole sur la mine Edwight qui fait face à la Coal River Mountain. 5 mars, 5 militants déploient une bannière géante du haut du barrage qui retient le bassin de rétention de boue toxique qui domine l'école élémentaire de Marsh Fork. La route menant de la mine à l'usine de préparation est bloquée. 16 avril, sur une falaise de la même mine, 3 militants, accompagnés de 2 journalistes, déploient une banderole incitant les institutions chargées de l'environnement à ne plus autoriser les décapitations de montagnes.
J'ai besoin d'aller m'asseoir avec les gens dont la vie a été détruite. Je dois aller voir les sites d'extraction. Parce que tu sais, il y a des jours où je crève de peur de me retrouver en prison. Des jours où je me sens trop fatigué pour continuer à bosser. Aller à des endroits comme ceux-là te rappelle pourquoi tu te bats et tout à coup, tu te rends compte à nouveau que ça vaut vraiment le coup. Souvent, je pense aux Catskills. Si ça se passait là-bas, je serais incapable d'être un militant rationnel et stratégique. Je me baladerais dans les bois avec des explosifs. Et je sais bien que ça serait pas un choix stratégique. Mais je suis pas sûr de pouvoir être rationnel à ce sujet. Je comprends l'attachement des gens à leur montagne, leur terre. J'ai le même avec l'endroit d'où je viens. C'est comme s'ils arrachaient ton âme, petit bout par petit.
23 mai, 7 personnes franchissent la barrière fermant l'entrée de la mine de la Coal River Mountain. 2 militants s'embarquent dans un kayak gonflable sur le bassin de rétention géant de Brushy Fork et y déploient une banderole contre les boues toxiques. Arrivés en pagayant jusqu'à la rive, ils sont cueillis par la police. Le même jour, 8 militants pénètrent sur la mine de Kayford Mountain, s'enchaînent sur une pelleteuse géante pour faire passer un message simple. Plus jamais ça. Il faut 4 heures aux flics pour les libérer de leurs entraves. 18 juin, 12 militants et 2 journalistes s'introduisent sur le site Twilight. 4 d'entre eux escaladent une pelleteuse géante. La mine s'arrête pendant 4 heures. 23 juin, une manifestation comptant 250 personnes débute à l'école élémentaire de Marsh Fork. Les manifestants sont accueillis par 250 mineurs et leurs femmes qui font tourner le moteur de leur moto, soufflent dans des cornes de brume et provoquent les militants. Le cortège se dirige vers l'entrée de l'usine de préparation du charbon qui jouxte l'école, où il se trouve bloqué par les mineurs. 11 août, 4 personnes, accompagnées par plusieurs dizaines de soutiens, entrent dans le bureau de l'environnement à Charleston et s'enchaînent à la porte. Ils demandent la démission de son secrétaire. Du 25 au 31 août, occupation de 2 arbres sur la mine Deadweight. 9 septembre, blocage de l'immeuble de Massey dans le Boone County. À chaque action, ses interpellations, et avec à la clé des amendes, des maintiens en détention sous caution, et parfois des peines de prison. 105 arrestations pour 14 actions en à peine 8 mois et des milliers de dollars déboursés. Pour apporter votre soutien, prendre contact, obtenir plus d'infos, rendez-vous sur le site climateground0.org. Salut à tous!